VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Conakry, 18h à Kigali. Bienvenue à notre bulletin de nouvelles. En Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien a réfuté ce mercredi toute forme de dissension entre le président Alassane Ouattara et le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, deux jours après l'incarcération d'un proche de ce dernier dans une affaire de cache d'armes. Le président de l'Assemblée nationale et membre du parti au pouvoir a déclaré le porte-parole du gouvernement, Bruno Koné, répondant à la presse à l'issue du Conseil des ministres. La presse ivoirienne spécule depuis des mois sur la rivalité entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara, prêtant à M. Soro l'ambition d'accéder à la tête de l'État lors de la prochaine élection présidentielle en 2020. L'arrestation et l'incarcération lundi de Souleymane Camarata Koné, dit Soul to Soul, chef du protocole du président de l'Assemblée nationale, inculpé de complot contre l'État après la découverte en mai d'une importante cache d'armes dans sa villa lors d'une mutinerie de soldats, a relancé ses spéculations. Dans une lettre ouverte publiée en ligne ce mercredi, Souleymane Camarata Koné accuse le pouvoir de viser Guillaume Soro à travers lui. L'organisation Amnesty International se dit très préoccupée ce mercredi par les conditions dans lesquelles se tiennent les premiers grands procès des membres présumés du groupe djihadiste Boko Haram au Nigeria. Procès où les médias et le public ont été interdits pour raison de sécurité. Les audiences ont démarré lundi dans 4 tribunaux civils délocalisés dans un centre de détention militaire à Kainji, dans l'état du Niger, dans le centre du pays, où 1669 suspects doivent comparaître devant les juges. Suivront ensuite le procès de 61 autres personnes détenues dans la caserne de Giwa à Maiduguri, capitale de l'état de Borno dans le nord-est, épicentre de la rébellion des djihadistes. Les audiences publiques sont cruciales pour protéger le droit d'un individu à un procès équitable et à des procédures régulières, a déclaré Osaï Ojigo, directeur d'Amnesty International Nigeria. Pour sa part, le ministère nigérian de la Justice a promis que les procès seraient justes et que les accusés seraient poursuivis et non persécutés.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Violence en RCA, la Centrafrique n'est pas en situation de pré-génocide, a affirmé ce mercredi à Bangui Adama Dieng, le conseiller spécial de l'ONU pour la prévention du génocide. Mais pour Monsieur Dieng, qui est en RCA depuis le 6 octobre, il y a sur place des indicateurs qui peuvent aboutir, s'ils ne sont pas maîtrisés, à des crimes de génocide. Parmi ces indicateurs, dit-il, les violations graves à l'encontre des populations civiles pour leur supposée appartenance ethnique et religieuse, ainsi que la faiblesse de l'État et la prolifération des groupes armés. Fin août, le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les affaires humanitaires, Stephen O'Brien, avait mis la communauté internationale en garde contre des signes avant-coureurs de génocide en Centrafrique. Le Rwanda a rejeté catégoriquement ce mercredi le rapport de Human Rights Watch accusant son armée de torturer pour obtenir des aveux de suspects détenus illégalement. Le ministre rwandais de la Justice, Johnston Businge, a déclaré dans un communiqué qu'il n'y avait aucune preuve crédible des accusations formulées par l'Organisation de défense des droits de l'homme basée à New York. Human Rights Watch affirme avoir documenté 104 cas de personnes emprisonnées illégalement, dont une majorité aurait été victime d'actes de torture, bastonnades, décharges électriques et simulacres d'exécution dans les centres de détention de l'armée rwandaise entre 2010 et 2016. La plupart des détenus auraient été arrêtés parce que Kigali les soupçonne d'appartenance au FDLR, les Forces démocratiques pour la libération du Rwanda, un groupe rebelle hutu-rwandais basé dans l'est de la RDC, dont certains des membres fondateurs ont participé au génocide de 1994 au Rwanda. D'autres prisonniers seraient liés au Congrès national rwandais, un groupe d'opposition en exil composé principalement d'anciens membres du FPR, le parti au pouvoir, ou au FDU, les Forces démocratiques unifiées, parti non reconnu par les autorités, dont la présidente Victoire Ingabire est actuellement en prison. Et pour terminer, au Zimbabwe, un responsable syndical zimbabwéen, Stanvoz Rwazda, leader d'une association professionnelle de vendeurs, a été arrêté pour avoir comparé à un mort vivant le président Robert Mugabe.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Jacques Aristide pour la Minute Éco sur VOA Afrique. La reprise économique se confirme en Afrique subsaharienne. Le Fonds monétaire international prévoit une croissance de 2,6% en 2017 après un taux d'1,4% l'an dernier à cause du bas niveau des cours des matières premières. Le FMI estime que le produit intérieur brut des 45 pays de la région devrait continuer à progresser l'année prochaine à hauteur de 3,4%, mais l'institution ne manque pas de souligner la fragilité récurrente des deux moteurs économiques du continent, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Le Nigeria a été affecté par la baisse des prix du pétrole, alors que l'Afrique du Sud est confrontée à l'incertitude politique qui pèse sur la confiance des consommateurs et des investisseurs. Le groupe nucléaire français Areva procédera à des licenciements l'an prochain dans une de ses filiales au Niger. À La Sommaire, dans le nord nigérien, plusieurs centaines de salariés seront concernés. Areva évoque les prix très bas de l'uranium à 20 dollars la livre et indique que La Sommaire doit adapter son organisation industrielle et ajuster ses effectifs. De telles mesures incontournables, d'après le groupe, permettront à La Sommaire d'éviter la faillite. Areva exploite l'uranium depuis près de 50 ans dans le nord du Niger. La Banque centrale d'Éthiopie a dévalué la monnaie du pays de 15% pour stimuler les exportations qui ont pris du retard. La banque a également augmenté son taux directeur de 5 à 7%.
Musique.